When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Ciao à tutti.
Bogue.
Et bonjour à tous, c'est Casimir pour L'Europe est une fête, nous sommes à Grand Contrôle. Aujourd'hui je suis avec Carla, ça va Carla?
Ouais, ça va.
Je suis avec Denis qui revient de sa balade culturelle.
Ciao Casimir.
Ciao. Et je suis avec une nouvelle chroniqueuse, Evelyne Paris, qui représente la Roumanie.
Bonjour.
Et bienvenue
Hello.
Dans l'équipe.
Merci.
Evelyne Paris, c'est amusant comme nom. Pourquoi pas Evelyne Bucarest pendant qu'on est Paris, c'est ton nom de famille, c'est
oui.
Roumain. C'est classique pour la Roumanie ou pas du tout?
C'est pas forcément classique pour la Roumanie. Du coup, mes grands-parents sont nés en Grèce et c'est plutôt l'inspiration derrière mon nom. C'est pas la ville de Paris, mais plutôt Paris de la mythologie grecque.
Ah.
Donc voilà.
On a une déesse grecque en fait. On pensait avoir.
C'était le roi, c'est ça, Paris?
Non, je pense qu'il n'était pas roi. De toute façon.
Question piège. C'était oui, une question piège de Denis.
Non, non, je me posais la question.
Mais Paris de Troyes, on parle.
Oui, le Paris de Troyes, exactement.
Il était prince.
Ah, prince, ouais, prince, voilà. Pardon.
Il n'a jamais été roi parce que les Grecs ont détruit Troyes.
Voilà. C'était le petit moment culture pour l'introduction. Voilà. Aujourd'hui, dans L'Europe est une fête, nous allons aborder le thème actuel de Grand Contrôle, donc le thème qui a lieu ici dans l'espace Grand Contrôle. Le thème, c'est quoi ton genre? Alors moi, ma réponse à cette question, ce serait « je suis un homme », même si à mon timbre de voix, certains pourraient croire le contraire. Je suis un homme et j'ai la chance de m'être toujours senti très à mon aise dans mon corps d'homme, même lorsque je me suis mis à faire du théâtre. Et que certaines personnes de mon entourage amical, un entourage très binouze, football, camping, pour vous restituer un peu l'entourage que j'avais, ne trouvaient pas forcément que c'était l'activité la plus virulo-masculine. Qu'à cela ne tienne, j'ai brisé les codes des genres à ma petite échelle. On pourrait presque dire que je suis un révolutionnaire. Appelez-moi Casimir Guevara. Mais les révolutions de genre ne sont pas toujours aussi intenses comme dans mon histoire. Prenons l'exemple du port du pantalon en France. Est-ce que vous saviez que les femmes étaient interdites de porter le pantalon jusqu'en 2013 en France?
Alors, je ne savais pas que c'était jusqu'en 2013, mais je savais que c'était une loi.
Oui, ouais, la loi qui datait de 1800 et qui interdisait le travestissement des femmes, je cite, a été levée le 31 janvier 2013. Avant cela, les femmes porteuses de pantalons étaient hors la loi. Alors, sauf celle qui possédait une permission de travestissement, ça existait, oui, une permission de travestissement. Ce permis était délivré à l'époque pour des problèmes de santé ou pour des femmes qui avaient besoin de monter à cheval. Est-ce que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie avant le 31 janvier 2013 étaient des cavalières ou des malades? Je ne crois pas, pourtant elles avaient des pantalons.
Ah non, on ne veut pas de détails.
Cette anecdote illustre bien tout le travail qu'il reste à accomplir en France sur la question du genre. On va partir en Italie. Donc avec toi, Carla, pour voir si là-bas les femmes portent des pantalons légalement ou si les hommes portent des soutiens-gorge s'ils en ont envie. Denis, tu voulais dire quelque chose?
Oui, j'ai une question. J'ai vu une pièce de théâtre hier et ce sont trois femmes et l'un des rôles est joué par un homme. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça?
Oui.
Ouais.
Oui, pas de problème.
Moi, je te verrais bien en robe et tout ça.
Non, mais oh.
Ah bah, il était comme ça. Ah bah, tu dis oui, après tu dis non.
Non mais merci Denis. On va écouter tout de suite la chronique de Carla.
Justement, parce qu'on parlait de théâtre, hier, je suis allée au théâtre voir un collègue italien, à moi, qui s'appelle Giuliano Scarpinato. C'est un metteur en scène très talentueux qui a été invité par le Théâtre de la Ville de Paris avec sa pièce pour la jeunesse. La pièce pour la jeunesse s'appelle Fafafine. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais la particularité de cette pièce, c'est que c'est une pièce, justement, qui parle de la question du genre. Alors, moi, je vous préviens, c'est vraiment un mot, je ne sais pas vraiment pas prononcer.
Ah, si, c'est très bien.
Je le prononce bien?
Oui,
non,
parfait.
Ok, parce que vraiment, c'est compliqué. Donc, alors, la pièce, elle s'appelle Fafafine. Parce que il y a une île à Samoa où les Fafafines sont en fait les citoyens du troisième sexe, on va dire, qui est reconnu.
Reconnu aux îles Samoa, dans le Pacifique.
Aux îles Samoa, Fafafines, le troisième sexe est reconnu. Et donc, tout peut être homme, femme ou entre les deux. Voilà, ne pas choisir. Et l'histoire que Giuliano nous raconte, c'est vraiment une espèce de fable, parce que d'ailleurs, ça se passe... on ne sait pas où ça se passe parce que les personnages ont des prénoms en anglais. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Alex et qui, le lundi, se sent un garçon, le mardi, se sent une fille. Et d'ailleurs, tu vois, il peut porter une basket, il peut porter une chaussure de fille. Et donc, tout le jour, voilà, il est là, comme ça, qu'il bascule d'une identité à l'autre jusqu'au jour où, en fait, il tombe amoureux d'un de ses petits copains de l'école qui, d'ailleurs, joue au foot, qui s'appelle Elliot. Et donc là, il décide absolument qu'il veut lui déclarer son amour. Et donc, il s'enferme dans sa chambre. Et il décide qu'il veut partir aux îles Samoa avec lui, parce que là, ils pourront être des Fafafines, eux aussi. Et donc, bah, toute la pièce, ça se déroule autour de lui, qui est enfermé dans sa chambre, et ses parents qui apparaissent depuis une forme de serrure. Voilà, il y a un effet digital très bien fait. Donc, c'est le dialogue avec ses parents qui découvre son identité. Et donc, la pièce, elle est très, très belle. Si vous avez envie de la découvrir, elle est toujours au Théâtre de Montreuil jusqu'à lundi. Donc, elle est encore là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Italie quand cette pièce s'est développée? Ils ont gagné énormément de prix, mais il y a eu une réaction de pas mal de tout ce qui est l'équivalent de la... famille pour tous, comment vous appelez ça en France?
Le mariage pour tous,
family pour tous, l'équivalent en Italie. Tous les partis des extrêmes droites, ils ont fait une grande pétition pour éviter que ces spectacles soient diffusés près de l'école, parce qu'ils disaient que c'était, ils ont vraiment déclaré
c'est un spectacle interdit en Italie.
Ils ont fait une pétition avec 100 000 signatures pour l'interdire. Ils l'ont appelé le spectacle des horreurs, alors que Amnesty International lui a donné son soutien. Donc voilà, tu vois.
L'histoire d'un petit enfant, c'est le spectacle des horreurs.
Voilà, c'est le spectacle des horreurs. Et là aussi, tu vois, j'ai envie de poser la question, comment c'est possible que ça, c'est un spectacle, c'était tellement poétique, tellement beau, c'était le spectacle des horreurs. Et quand j'étais petite, moi, que j'ai regardé la télé et j'avais 9 ans, à la télé, il passait tout le temps de femmes, d'un détenu vraiment hyper provocante. La femme, elle était complètement utilisée pour vendre de la bière, du cortison, de trucs, des femmes à poil, elles étaient utilisées pour vendre tout. Et ben ça, c'était pas immoral. Et voilà, toutes les choses qu'il a fait sur ma développement de jeune fille, tu vois, c'était, il y a personne qui m'a protégée de ça, non, il y a personne qui a fait une pétition pour éviter ces genres de publicité. Donc bon, ils ont fait une grosse pétition, ils se sont vraiment très très mis en colère, mais ils sont perdus parce que bon, Giuliano a combattu pendant 4 ans pour ce spectacle. Et d'ailleurs, bon voilà, c'est là, ce moment là qui est, en tout cas, la France, il l'a invité et voilà, pour continuer à le soutenir aussi. Donc voilà, ça donne un peu le thermomètre de ce que c'est, voilà, essayer de parler de la question du genre à des petits enfants. Voilà, en Italie, c'est pas trop bien vu. Voilà, il faut vraiment...
Rappelle-nous le nom de la pièce, c'est Fafafine, non?
Il s'appelle Fafafine de Giuliano Scarpinato. Et l'acteur italien qui joue le rôle, parce que c'est un seul en scène, il a fait le grand effort de réapprendre tout le texte en français. Donc le spectacle, il n'est pas sous-titré. L'acteur italien, il joue en français. C'est vraiment...
Wow.
C'est vraiment
très bel effort. Ouais. Oui, Denis.
Il tombe amoureux d'un petit garçon qui s'appelle Elliot, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et il lui déclare sa flamme, non?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Pourquoi?
Bah non, oui, c'est l'histoire du film.
Peter Elliot est le dragon, donc déclarer sa flamme, mais je...
les références des Denis.
Bah, Disney.
Je l'ai pas vu.
Ah oui, ça y est, l'histoire du dragon et d'Eliott.
Oui, Peter Elliott est le dragon.
Oui, oui. Et donc, tu avais une musique à nous faire écouter.
Oui, aussi. Et avant juste de faire écouter cette musique, tu vois, je voulais vous parler justement, parce qu'on va écouter Farinelli, L'Ascia che pianga, parce que je vous les avais déjà fait écouter une fois. Mais ça, on va la réécouter, parce que Farinelli, c'était un des chanteurs qui était castré. Parce qu'à l'époque, on avait cet usage de castrer le garçon, parce que les femmes ne pouvaient pas chanter dans les églises. Donc voilà, pour faire chanter, avoir deux voix de soprano, on pouvait castrer des jeunes garçons. Et donc là, apparemment, j'ai trouvé un article, je ne sais pas si c'est vrai, comme quoi, ça se trouve, peut-être Farinelli, ce n'était pas un homme castré, mais c'était une femme. En fait, ils ont retrouvé le cadavre. Ils ont découvert qu'il avait une maladie qui est pratiquement hyper rarissime chez les hommes, que la forme de son bassin, c'était typiquement celle d'une femme et qui est peut-être son père parce qu'il voulait absolument lui faire faire une carrière de chanteuse à sa fille et voulait se faire du fric. Il l'a fait passer par un casse-toi. C'est le gendre d'un transgendre du transgendre. Alors, j'adore cette histoire. Là, on va pas écouter Farinelli parce que Farinelli, il chantait en 1700, donc malheureusement, on n'a pas un enregistrement. C'est un extrait de la bande sonore du film qui a été sorti dans les années 90, Farinelli. Et il faut savoir que pour créer la voix de Farinelli, ils ont fait une voix de synthèse en mixant la voix d'un homme avec la voix d'une femme. Oh. Et je trouve ça vraiment un magnifique résumé de notre thème d'aujourd'hui.
Bah écoute, on écoute tout de suite la musique de Farinelli. Oui, je dis pas de bêtises. Ça vient, voilà. Merci, merci Carla pour ce morceau. Quelle beauté cette voix d'homme, femme, enfin de double mixée.
Voix genre.
Voilà, c'est ça.
C'est
exactement ça. Des réactions, les amis, par rapport à ça ?
Ouais, parce que quand on imagine l'Italie, quand on est un homme, c'est un peu ce que Carla disait. On imagine cette belle brune dans cette robe en été sur un vélo. Un peu comme dans le film là du comique là. Non mais c'est vrai, c'est l'image qu'on a. Et l'image des hommes, c'est la même chose. Le brun ténébreux.
Oui.
Voilà, on a une. C'est vrai qu'en Italie, c'est pas un pays où on se dit tiens, ils se posent des questions ou etc. On n'imagine pas qu'il y en a, mais on se dit pas en premier c'est un pays où il y a une forte communauté genre ou transgenre, etc. C'est vrai qu'on imagine toujours ces beaux bruns. Voilà, c'est un peu l'image qu'on a. Et je pense qu'on a dû te le dire souvent, non, Carla ?
Là-bas, c'est très compliqué, il y a l'église, tout ça, voilà, c'est très compliqué.
Moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Caster Semenya, la sud-africaine qui est championne de 800 mètres, parce qu'elle, elle n'a pas caché, en fait, c'est une coureuse de 100 mètres qui est la meilleure du monde et qu'elle a comme spécificité.
Ouais, elle a une particularité génétique, mais.
C'est bon, ça, elle a une spécificité génétique, donc elle a beaucoup plus d'hormones masculines que la plupart des athlètes, et donc elle est beaucoup plus forte que tout le monde, et elle est remise en question. Aujourd'hui, elle est interdite de participer aux compétitions. À cause de ça.
Bah, c'est assez incroyable, c'est ce qu'on parlait durant la pub, parce que le nageur.
Il n'y a pas de pub.
La chanson.
D'abord la pub. La pub pour Citroën, notamment.
Oh là là, Farinelli de Mille.
Quel horreur. Tout d'or, Denis, ça, je crois.
Non, mais ouais, on disait qu'il avait aussi une particularité génétique, c'est ce qui lui permettait de faire ses longueurs aussi vite. Et pourtant, on a dit ah bah, c'est super pour lui.
On l'a
pas disqualifié, on n'a pas dit ah ben non, vous êtes hors norme. Donc c'est assez curieux cette décision-là. Déjà, c'est une femme, c'est l'Afrique. Voilà, ça va créer un débat qui ne devrait pas avoir lieu en fait. Elle devrait courir.
Oui.
Moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Danish Girl. Je ne connais pas le nom en français, mais c'est un film qui est disponible sur le service de streaming en ce moment. Et donc, ça retrace l'histoire d'un artiste peintre danois qui était le premier à avoir une opération de changement de genre. Qui est la première personne enregistrée dans l'histoire comme étant transgenre. Donc, c'est l'histoire d'Einar Wagner.
Oui, ouais. On m'a conseillé de le voir aussi ce film. Alors, on va aller le voir.
Il est très bien. Il est un film très, très bien. Donc, je le conseille.
Ouais. Avec Eddie Redmayne.
Exactement, c'est ça. Alors, c'est bien ça.
Peut-être que ça ne vous dit rien, mais il est très connu. Et c'est un film de Tom Hooper. Écoute, on va t'écouter, Evelyne, pour partir en Roumanie avec toi. Et tu vas nous raconter un petit peu le genre Roumanie, comment tu l'as abordé. Tout de suite.
Alors, pour commencer, je voudrais souligner que le sujet que nous abordons aujourd'hui est très important, surtout dans le contexte où des pays, bien comme la Roumanie, ont commencé à se poser la question de renforcement de la question du genre dans l'éducation nationale. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un aspect plutôt linguistique, parce que je pense que la morphologie des langues est très parlante de notre rapport au monde, mais aussi du particularisme de chaque culture et civilisation. Donc, il s'agit d'une spécificité de la langue roumaine par rapport aux langues d'origine romane, c'est l'existence du genre neutre.
Ça existe.
Oui, ça existe en roumain.
D'accord, ok.
Oui, donc, comme vous voyez, c'est un aspect insolite de la morphologie de la langue roumaine, car il s'agit d'une classe de substantifs tout à fait étonnante d'un point de vue logique.
Donc, en quoi ça consiste le genre neutre en Roumanie?
Donc, pour vous donner un exemple concret, un substantif est neutre quand au singulier il est masculin, mais au pluriel, il devient féminin. Donc, ça change de genre. Prenons l'exemple du mot « train ». En parlant d'un train, on parle d'un objet inanimé masculin. Cependant, dès qu'on parle de deux, trois ou plusieurs trains, ces objets deviennent féminins.
Waouh ! Et ça marche pour tous les objets, ça ?
Non, c'est il y a juste une catégorie. Les autres genres existent aussi. Donc, il y a les objets, les substantifs féminins, les substantifs masculins qui gardent leur genre au singulier et au pluriel. Okay. Mais il y a juste une catégorie, quelques mots qui changent de genre
comme
entre
train,
singulier.
Il y a quoi comme exemple ?
Il y a par exemple le mot chaise. Par exemple, une chaise, une chaise au singulier en roumain, c'est masculin. Donc, c'est pas comme en français. Et au pluriel, deux chaises, trois ou plusieurs chaises, c'est féminin.
C'est féminin. Donc, tu passes du pluriel et tu changes en plus de
genre.
De genre, ouais, du coup.
Exactement.
C'est énorme, ça. Et comment ça s'explique, ça, le genre neutre en roumain? Enfin, pourquoi ça existe, en fait, en gros?
Alors, connu par la plupart des langues indo-européennes, le neutre a disparu des langues romanes occidentales. En effet, il est considéré que dans les langues dont les racines sont latines, seule la langue roumaine a conservé le genre neutre. En tant que catégorie grammaticale cohérente et productive, le neutre étant une marque de la tendance à remodeler le genre grammatical pour accroître peut-être la correspondance avec le genre naturel. À titre de comparaison, il est intéressant à noter que dans la langue française contemporaine, on retrouve aussi trois substantifs qui au singulier s'accordent masculin et au pluriel s'accordent féminin. Il s'agit donc est-ce que vous savez quels sont les substantifs?
D'abord. Les substantifs
en français?
En français,
oui,
il y en a trois. Oui, amour.
Ouais.
Il y en a encore deux.
Bah, tout de suite, hein, Carla. Oui, amour, je sais.
Ouais,
oui,
moi, je sais.
Ça, je sais. Les autres? Moi, j'ai la réponse, donc je vais pas les donner.
Ah, aucune idée.
Aucune idée, allez.
Donc,
on donne la réponse.
Vas-y. Oui, donc c'est amour, délice et orgue.
Orgue.
Ouais, oui, exactement. Donc, pour revenir au cas de la langue roumaine et pour répondre à ta question, les origines du genre neutre ne sont pas complètement et définitivement élucidées par les linguistes. Il peut s'agir d'une persistance de neutre provenant du latin, d'une influence des langues slaves ou bien d'une invention propre à la langue roumaine.
Ok.
Donc voilà, j'ai considéré que cette caractéristique de la langue roumaine est pertinente pour notre analyse de la question du genre en Europe. Mm-hmm. Parce qu'il est clair que le genre grammatical relève de certaines perceptions culturelles ancrées dans la mentalité collective et donc qui influencent notre vision du monde. Et on l'a vu récemment, notamment avec les débats autour de la féminisation des noms de métiers. Et alors que le genre neutre dans la langue roumaine n'a pas forcément le rôle de dépasser la binarisation de la société pour combattre les stéréotypes, je pense qu'une telle réflexion s'inscrit aussi dans l'air du temps parce qu'elle peut aider à repenser l'évolution de la structure des langues pour émanciper le langage d'une vision trop binaire du genre.
Alors juste, moi, je me demande à quoi ça sert en fait. Ça sert à rien particulièrement. Il n'y a pas une utilité de...
Non, il n'y a pas une utilité. C'est d'accord. Juste une catégorie grammaticale qui existe. Comme ça dans la langue latine, dans la langue roumaine, pardon. Et il n'y a pas de logique derrière, il faut les apprendre par cœur. Pour nous, ça vient naturellement, mais j'imagine que ça pourrait poser des problèmes pour des étrangers qui essayent d'apprendre le roumain.
Comme il y a plein de mots en français et dans d'autres langues qui sont le féminin et le masculin sont différents. Et donc, on a des gens
pas,
qui disent tout le temps un chaise, un chaise. Non, il n'y a pas de un chaise, c'est une chaise. Mais en fait, c'est nous qui sommes les seuls à faire une chaise, quoi, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as une musique à nous faire écouter pour ponctuer tout ça?
Oui, j'ai choisi une chanson d'une artiste roumaine qui est active depuis une trentaine d'années, mais toujours très d'actualité et très à la mode, qui s'appelle Loredana. Et la chanson que j'ai choisie pour aujourd'hui s'appelle Lele.
Ça
ne veut rien dire en particulier, mais vous allez voir, c'est une chanteuse qui chante de la musique, donc de la musique commerciale, mais à chaque fois, elle essaie d'intégrer des éléments de folklore roumain. Donc,
bon, on va écouter ça tout
bon
de
écoute.
Suite. Lele. C'était ça le rythme. Merci pour cette chronique. On a parlé tout de suite de l'anglais. En anglais, on dit it.
Oui, justement, on donnait l'exemple d'autres langues. Donc, en anglais, il n'y a pas de genre. C'est, on dirait que c'est plutôt la différence entre les objets animés et inanimés, mais même comme ça. Oui, même comme ça, on peut pas, pour des objets, même pour des animaux, dog, cat, voilà, on peut pas trouver un genre féminin
ou masculin.
Le
dog, c'est un garçon quand même, non? Non, je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans mon esprit, moi, c'est un chien, alors que même en anglais, j'ai l'impression que c'est un, alors qu'en fait, non, en anglais.
Alors qu'en allemand, par exemple, il y a.
Tu as débloqué un truc dans mon cerveau, c'est extraordinaire.
Il y a le genre neutre aussi en allemand.
Oui. Ah oui,
et je pense qu'en grec c'est ouais.
Der, die, das, donc der masculin,
das c'est neutre.
Attends, vous parlez allemand là, c'est
ça? Ein bisschen mein Herr.
La Denise a tous les talents. Et en croate, comment c'est? Alors il y a it, il y a da bis.
On a aussi un neutre et en plus on a de vieilles choses qui viennent du latin. Alors moi je l'ai pas appris à l'école, mais je dois le parler naturellement.
Et en italien alors il y a
italien, c'est féminin, masculin,
voilà,
c'est tout.
Chacun de son côté,
tranquille.
D'accord. Il y en a à la cuisine, il y en a au foot. Allez, très bien.
Pas mélanger la sacrée église catholique avec tout ce bordel du neutre là. Hein. Voilà, il n'y a pas de neutre.
Bon, très bien, on va écouter Denis en Croatie pour sa super chronique un peu folklore. Allez, on y va.
Alors, quand tu m'as dit qu'on allait parler du genre, c'était très compliqué pour moi. Alors, quand tu me dis quel est mon genre, j'allais te dire plavusha.
Qu'est-ce que ça veut dire plavusha ?
Plavusha, plavo, c'est bleu en croate. Mm-hmm. Et pour dire une blonde, on dit une bleue en réalité.
Hein ?
Ouais, c'est très bizarre. On dit une femme bleue.
D'accord.
Mais dès qu'on dit une femme bleue, on sait que c'est une femme blonde.
D'accord.
Et alors, je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Alors, ce qu'on aime aussi, c'est tsrne. Tsrne, c'est celle qui a les cheveux bruns. Et en fait, ici, il y a quelqu'un, c'est dommage que ça ne soit pas filmé. Il y a un type croate dans cette salle avec les cheveux bruns qui vient d'Amérique latine. Mm-hmm. Je pense que si un jour elle va en Croatie, elle aura. C'est le genre de tous les Croates. Tu me parles de genre ? Ouais. C'est notre genre.
Ah oui, c'est ce genre-là, d'accord.
D'ailleurs, j'ai un ami de Zagreb qui est là, qui rigole en la regardant. Il est d'accord avec moi.
D'accord.
Alors, si on parle du genre en Croatie, moi j'ai été élevé au village. Mm-hmm. Et le village, c'est un endroit qui est très sexué. Mm-hmm. On vit au rythme des saisons et on vit avec les animaux. Tout à l'heure, on parlait de la langue. En croate, tout existe au masculin et au féminin. En France, il y a une guerre entre qu'est-ce qu'on doit féminiser, qu'est-ce qu'on ne doit pas féminiser. En croate, on a, tu vas me comprendre, professor, professorica, učiteljica, l'instituteur, mm-hmm. l'institutrice.
Mm-hmm. Les aussi.
Doctor, doctorica.
Presidente.
Presednik, presednica. Mm.
Je vérifie.
Tous les mots existent. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce débat-là. Tout est déjà sexué. Si on prend le cas du village, par exemple, il y a le coq, il y a les poules, et on vit au rythme de la reproduction aussi. C'est-à-dire mmh. que ce problème de genre, on n'y a jamais réfléchi. Tu comprends ?
Oui,
puisque l'année est basée sur un site de reproduction, etc. Le masculin, le féminin, on l'apprend très jeune, mais sans se poser des questions, en fait. Mmh. Et c'est vrai que si d'un seul coup on voyage, on se rend compte qu'il y a des gens différents. Mais on est en face d'une nouveauté, j'ai envie de dire. Mmh. C'est pas quelque chose de nouveau. Quand on est au village, par exemple, il y a par exemple des travaux qui sont des travaux uniquement masculins. Mmh. Moi, j'accompagnais mes oncles et mon grand-père dans ce qu'on appelle la cave. La cave, c'est un endroit où on extrait des pierres. Mais des pierres, faut être un bonhomme. Hein.
Tu taillais de la pierre.
Mon grand-père les taillait après, mais c'est là où on les extrait. C'est une cave de pierre.
Okay.
On appelait ça cave. Les femmes n'y allaient pas. Tu comprends ?
Oui, 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 oui.
Donc le genre, en quelque sorte, se définissait par lui-même.
Oui, mais, oui. Parce qu'il y avait une activité physique.
Il y avait une activité physique énorme.
Ouais.
On finissait vers midi parce qu'ensuite le soleil tape trop fort. Mm-hmm. On mangeait. Et ensuite, parfois, on repartait avec les femmes dans des travaux agricoles. Donc là, elles nous accompagnaient, elles faisaient la même chose que nous. Mais il arrivait que quand on aille à la cave, mm-hmm. il y avait des femmes. Et d'ailleurs, mon oncle me disait, t'as vu là-bas, elle, c'est une femme, elle y va. Alors je disais, ah ouais, elle me dit, ouais, elle peut le faire. Mm-hmm. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interdiction, mais si tu as la capacité de le faire, personne ne va t'interdire en te disant mm-hmm. t'es une femme. Mm-hmm. Tu vois, il y a des règles comme ça qui sont définies dans la vie de tous les jours, qui sont une forme de norme, j'ai mm-hmm. envie de dire.
Et est-ce que si les hommes, ils sont pas...
Nerveux de ça ?
Non, est-ce que si les hommes, ils sont pas en condition, parce qu'ils sont petits, je ne sais pas,
ils sont pas capables de casser la pierre,
est-ce qu'ils sont exemptés ?
Ah, ils n'y vont pas naturellement, c'est-à-dire on le sait de soi-même. Si tu as plusieurs fils et tu sais qu'il y en a un qui est pas capable ou qui est plus chétif ou qui est malade ou qui a pas atteint l'âge aussi, parce qu'on veut pas non plus prendre un gamin de 11 ans et le tuer au travail avant l'heure. Tu vas lui fatiguer le corps. Bah, moi-même, quand je les accompagnais, je portais des petites pierres, je faisais des petits machins. Mais voilà, j'accompagnais mes oncles, j'étais content. tu vois, il y a tout un rituel là-dedans, oui. Pareil pour l'éducation, je veux dire, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient normées homme-femme, mm-hmm. mais si d'un seul coup quelqu'un avait la capacité de devenir médecin, homme ou femme, mm-hmm. bah on espérait bien que même si c'était une femme, elle ferait les études, c'était une fierté.
Oui.
Tu comprends ?
Oui,
Donc dans cette forme de société qu'on pourrait penser traditionnelle et fermée, il y a des choses préétablies,
oui.
mais elle n'est pas totalement, elle n'est pas sclérosée, elle mm-hmm. n'est pas fermée, et puis surtout elle évolue avec le temps. Mmh. Il y a une évolution. Moi, j'ai des membres de ma famille aussi. Ils montent à Zagreb, ils vont à l'université. Et à ce moment-là, ce qu'on pensait être un travail que d'hommes ou que de femmes, mmh. bah, devient aussi
En fait, on s'adapte à l'utilité, quoi. Présente. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable de faire quelque chose, il le fait, peu importe son genre.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On s'adapte. Tu sais, moi, une fois, j'ai été réveillé à 3 heures du matin.
3 heures 3 du 0, matin. 0, 0, 0,
ouais. Non, mais je suis un enfant, je dois avoir 7-8 ans. Mm-hmm. On me dit « Dene, Dene ». C'est Denis, tu vois, Dene. 3 heures, il fait nuit, qu'est-ce qui se passe? Et là, on m'amène à l'étable. Parce qu'en fait, il y a une vache qui va mettre bas. Mmh. Tu vois, là, à ce moment-là, tu assistes à ça. Et c'est pour ça que je te dis, tout est sexué à la campagne. Tu vois la vache qui met bas.
L'accouchement.
Oui, c'est ça. Qui met bas.
Qui met bas, oui.
Qui met bas, qui accouche pas.
Car c'est une vache.
Voilà. Donc voilà, c'est un rythme de vie où c'est vrai que moi, c'est des questions dont je ne me suis pas posé avant de venir en France. Tu comprends ?
Mais en France, ça a été chamboulé.
Alors, j'ai pas été chamboulé, mais je vais donner un exemple qui n'est pas obligatoirement sur le genre, mais qui est sur la différence.
Okay.
Je m'en rappellerai toujours. C'était à Paris 20e, tu vois, ça m'a marqué. Je pourrais te dire le croisement de la rue. Je venais d'arriver de Croatie, donc je ne parlais pas encore français. Et j'ai vu un nain de l'autre côté de la rue. J'ai ri, j'en avais jamais vu de ma vie. Mais je comprends que ce n'était pas un enfant comme moi, que c'était un adulte. Ce que m'a dit ma mère, en 30 secondes, j'ai tout de suite compris. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui.
Dis-nous.
C'est-à-dire qu'on parle du genre, etc., et il y a des gens qui sont intolérants. Mais tant que tu ne leur fais pas comprendre en 30 secondes d'accepter la différence, et surtout d'être indifférent à la différence, on n'aura pas de solution.
Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors, ta mère ? Tu te souviens encore ?
J'en ai des frissons.
D'accord.
J'en ai des frissons.
Il avait le suspense,
non,
c'est
mais,
là.
Non, mais tu sais, quand tu ne sais pas, on doit t'apprendre et tu dois comprendre très vite. C'est ça que je veux dire. Et je pense que si en face, il y avait eu un transgenre ou s'il y aurait eu quelqu'un, elle aurait eu la même réaction.
T'as vu, c'est insoutenable, Denis. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ta mère?
Elle m'a remis à ma place. Je comprenais que j'aurais très vite une fessée ou que ça se passerait très mal et que la personne était née comme ça.
Ah, il ne va pas nous le dire.
Non, il ne va pas nous le dire.
Non, que la personne était née comme ça.
Ça reste entre sa mère et lui.
Que ça se respectait, que c'était un être humain. Tu comprends ?
Oui, oui.
Voilà, c'est ça aussi dont il faut être conscient.
Bah, merci, Denis. Tu as une musique à nous faire écouter ?
Alors, j'ai une musique. On ne va pas en parler. Vous allez m'en dire après. Parce que comme on est dans le genre, je veux que vous l'écoutiez, que vous compreniez pourquoi j'ai mis cette musique-là.
Alors
que je suis
croate. On ne l'annonce pas et on l'annonce après.
On l'annonce après. C'est une musique c'est croate.
Alors, la musique croate, alors. Allons-y.
Osjećam tiskovu ko poslije ružnog sna. Sretna sam što pustije i vraćam ovaj kraj. Da ne vidim ti oči i njihov prazan sjaj. Caminando voy por las calles de la ciudad. Caminamos en silencio ni un minuto sin hablar. Nos miramos y pensamos el mañana que será. Si tú no estás, si tú no estás, yo no sé lo que pasará.
Na 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 na.
Na 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 na
Alors qu'est-ce que c'était ça, Denis? Dédé, Déné?
Alors, comme on est dans le genre, on se pose des questions, c'est homme, oui. femme, qu'est-ce oui. que c'est? Ça c'est croate, c'est pas croate, c'est de la salsa. C'est un groupe qui s'appelle Cubismo, qui est parti, qui sont des croates. Ils sont partis à Cuba pour s'améliorer encore. Les Cubains ont été très impressionnés de leur technique. Et donc là, on a une chanson qui est la chanteuse chantée en croate. le chanteur, lui, je pense qu'il vient du Venezuela. Et après, ils avaient aussi une chanteuse portoricaine. Donc, ce sont des Croates qui font de la salsa, mais à un niveau, on va pas dire comme les Cubains, on va pas être aussi, comment dirais-je,
orgueilleux,
mieux que les Cubains en fait. Et donc. Et donc voilà, comme on était dans l'histoire du genre, voilà, parfois on peut se tromper, on peut se dire bah tiens, ça c'est latino, c'est certainement cubain, c'est bah non, c'est croate.
Ouais. OK, alors là c'est un genre, c'est une autre façon d'interpréter la notion de genre.
Bah le genre c'est souvent
multiculturalisme.
C'est ça, Carla voulait réagir le genre, par rapport
le genre,
à ça d'ailleurs.
Le genre c'est souvent se tromper sur ce qu'on voit.
Ouais. Waouh. Carla.
Mais sur la chanson, tu veux dire?
Non, mais t'avais une réaction en off, tu m'as dit, ah, ben, ça m'a fait penser à ça.
Oui, oui, bah là, tu es sur le fait que c'est très bien de savoir que tu vois, une femme puisse faire un métier d'homme qui est. Oh, elle a la permission. Mais...
Non, elle n'a pas la permission. Elle a la capacité.
Si, elle a la permission. Elle peut le faire. Elle n'est pas interdite de le faire. Mais tu vois, après, voilà, la question qui se pose souvent, c'est vraiment lié. Tu as l'autre question sur le genre. C'est cette question liée au désir, justement. Tu vois, si moi je suis une femme, j'ai un désir envers une femme, est-ce que j'ai le droit soit de le ressentir, quoi, tu vois, ça. Et est-ce que si je suis une femme, j'ai un désir envers une femme, je vais devenir un homme, et après si je deviens un homme, je suis un homme et j'ai envie d'un homme, tu vois. C'est,
oui, c'est ça.
C'est tout ce truc.
C'est ces questions-là. Ouais.
Ça devient vertigineux, en fait.
C'est vrai que tu as ouvert la question du genre sur ta chronique, Denis.
Oui, mais
plein de perspectives. Oui,
mais je précise bien explique à la fin la base, et c'est pour ça que j'ai parlé de Paris à la fin en partant du village, c'est qu'à Paris il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est le droit à l'indifférence. À Paris, en théorie, je dis bien en théorie, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a le droit à l'indifférence. Mais néanmoins, aujourd'hui, même beaucoup de gens ne sont pas indifférents. Et beaucoup de gens, moi, ce que je veux quand je marche dans les rues de Paris, c'est qu'on soit indifférent à moi, quoi que je fasse. Tu comprends? Il est là de droit. Moi, j'avais une amie sénégalaise qui me disait mon rêve, c'était de descendre les Champs-Élysées en mini-jupe avec une cigarette. C'est-à-dire, personne ne me voit. Une parmi tant d'autres. Tu comprends? Pas pour qu'on se dise, ah, elle fume, comme on dirait chez elle. Tu comprends? C'était ça. Elle me disait, moi, je ne pouvais pas chez moi parce qu'un membre de ma famille m'aurait vu ou quelqu'un. Tu comprends? C'est-à-dire, être invisible. À Paris, on a ce droit-là, à l'invisibilité.
Oui, chacun, tout le monde cherche à se différencier dans la foule aussi. Il y a ce côté-là, donc on veut être invisible, mais finalement tout le monde cherche
à se différencier. Alors Big Brother est arrivé dans la rue.
Alors là, on va ouvrir ce débat un peu de temps plus tard. Denis, ça c'est les bombes de Denis, quoi. Big Brother est arrivé dans la rue. Evelyne, tu avais une réaction à nous faire partager?
Oui, je voulais dire juste que cette histoire du village, des rôles différenciés pour chacun, ça peut très bien nous montrer le fait que même dans des sociétés plus traditionnelles où il y a cette différence entre le rôle masculin et le rôle féminin, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du sexisme ou qu'il y a une exclusion, par exemple,
des femmes,
pas
non.
du tout, exactement. Non. Et je voulais juste souligner ça parce que c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés de l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, dans la période de la guerre froide, en Europe de l'Est, le statut des femmes était meilleur que...
On a une présidente en Croatie, on attend toujours la présidente française.
Oui, bah, ça va. Bon, maintenant, on va faire le jeu pour ponctuer notre émission. Le jeu du jour, c'est un quiz. Alors, il y a des questions qui sont un peu sur les différences entre les hommes et les femmes. Donc, on sait un peu de la question du genre, mais il y a différentes questions.
Vas-y, je suis prêt.
Alors, savez-vous dans quel pays l'écart de salaire est le plus faible en Europe entre les femmes et les hommes?
Norvège.
Suède.
Alors, j'ai des propositions.
Ah, Belgique,
alors,
peut-être. Propositions, ok.
J'ai des propositions. Ah. Alors là, j'entendais quoi? Des Islandes, des Norvèges, Belgique. Alors les propositions, il n'y en a aucune.
Attends, le plus d'écart entre hommes et femmes?
Donc, le plus faible.
Le plus faible. Ah oui, le plus faible.
Donc le moins.
Ah, tu poses des questions bizarrement.
Oui, alors c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est l'Estonie ou c'est la France?
Estonie.
Ah, c'est l'Italie.
L'Allemagne.
Ah bah, c'est l'Italie.
Ah bon ?
C'est l'Italie, oui. Écart de 5,3%. Alors, ce qui précise, c'est qu'il faut encore que l'on accepte que les femmes travaillent. Parce qu'en fait, c'est les femmes qui travaillent.
Pour celles qui travaillent,
l'écart est faible. Après, on n'accepte pas toujours que les femmes travaillent. Enfin, tu peux nous...
Bah, c'est pas qu'on n'accepte pas, toutes les femmes travaillent. Mais tu vois, culturellement, c'est très vu.
Oui, c'est ça.
Qu'une femme peut rester à la maison, quoi.
Et l'autre info que j'avais, c'est que le plus mauvais élève entre les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, c'est l'Estonie, avec un écart de 25% entre les salaires entre les hommes et les femmes.
Et encore, c'est une moyenne.
Et donc, pourtant, le président est une présidente dans ce pays. Ah. Donc la Croatie a une présidente.
Et qu'elle se mette au travail alors.
Non, mais c'est très bien.
Deuxième question. Savez-vous dans quel pays d'Europe la journée de la femme, donc c'est le 8 mars, est un jour férié? Est-ce que vous savez...
T'as des propositions.
J'ai des propositions.
Dans quel pays, oui. 8 mars, en Roumanie déjà.
En Roumanie, c'est...
Je
l'avais pas
férié.
Celui-là.
Oui, c'est un jour férié.
Oui, oui. Bon, voilà, hein, ça rajoute un pays en plus.
Et on sait bien que c'est la journée des femmes. Et du coup, il y a des grandes célébrations à cette occasion.
Ouais. C'est un jour férié pour tout le monde.
Oui, oui, exactement.
Alors, mes propositions, je vais aller jusqu'au bout. Et il faudra que tu nous en reparles. Juste, je finis avec ça. J'ai l'Espagne, la Russie, la Slovaquie, la Macédoine, la France et la Roumanie. Je l'ai rajouté celui-là.
La Roumanie.
Déjà. Tu peux répéter ?
Alors l'Espagne, la Russie, la Slovaquie, Macédoine, la France.
L'Espagne ?
La Slovaquie.
La Russie, oui. L'Espagne, non. C'est la Russie et Macédoine.
Ah ouais.
Ah,
alors en Russie, l'info, c'est que c'est lié en 1921, Lénine qui a célébré les femmes qui avaient manifesté à Saint-Pétersbourg en fait pour la Révolution russe. C'était le début de la Révolution russe en 1917, si je dis pas de bêtises. Et l'autre info que j'ai, c'est qu'en Macédoine, c'était un jour férié, mais que pour les femmes. Ah. ça c'est drôle.
Ah, c'est pas mal.
Et est-ce que tu sais depuis quand le jour est férié en Roumanie et pour quelle raison le jour de la femme?
Je suis pas sûre depuis quand. Mais je sais que c'est la journée de la femme parce que c'est la journée internationale de la femme.
Oui, mais
c'est la journée mondiale.
Il y a pas une raison particulière qui fait qu'en Roumanie c'est un jour férié.
Des droits de la femme. Oui, oui, mais le nom générique c'est la journée de la femme. Non, bien sûr, nous, on parle des droits de la femme.
Non, mais t'as raison. C'est pas le nom en général. C'est que vu qu'on n'a jamais le temps dans ce monde, on dit c'est la journée de la femme comme c'est la journée de la fleur.
Mais
c'est la journée des droits de la femme pour rappeler les femmes qui sont mortes dans l'usine.
Je t'ai pas contredit, mais même pour la journée de l'enfant, on dit la journée de l'enfant, mais du coup c'est la journée des droits de l'enfant.
Ouais, mais il faut le rappeler surtout parce
et
que
même pour la journée de diabète, si tu veux pas être comme ça, c'est la journée de la lutte contre le diabète.
La journée de la femme, ça devient tout de suite un truc, c'est comme la fête des mères, quoi. C'est pas la journée des droits de les mères, quoi.
Ah, demain c'est la journée des droits des mères, oui.
Mais voilà.
C'est vrai. Non, mais c'est une formule. C'est vrai qu'il faut rappeler que c'est la journée des droits de la femme le 8 mars, mais la formule, c'est de dire que c'est la journée de la femme, en règle générale. Oui, alors,
donc,
pourquoi ?
Donc, du coup, j'ai pas trouvé la première date à laquelle ça a été fait en Roumanie, mais apparemment, cette journée a été officialisée en 1977 à travers une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, voilà.
Ah, c'est l'ONU qui vous l'a imposé ?
Oui, c'est l'ONU qui l'a reconnu. Qu'elle n'a pas imposé.
Bah, tu nous expliqueras un peu plus la prochaine fois pourquoi c'est férié en Roumanie exactement, et ce qui s'est passé, qui a voté ça et pourquoi vous l'avez voté. Prochaine question. Dans quel pays, alors ça c'est plus sur les genres, dans quel pays un homme a accouché d'un enfant ?
États-Unis.
Alors j'ai des propositions. On reste en Europe, Denis, pour le moment.
Ah oui.
L'Europe est une fête. Alors les propositions, c'est en Bulgarie, en Irlande, au Luxembourg ou en Allemagne ?
Irlande.
À votre avis, l'Irlande ? Non.
L'Irlande. Allemagne.
Ils ont légalisé l'avortement assez
pas longtemps.
Alors la question, c'est dans quel pays un homme a accouché d'un enfant ? En Bulgarie, en Irlande, au Luxembourg,
ou
en Allemagne ? Non.
Allemagne ? Non.
C'est en Allemagne. En Allemagne, en 2013, alors née femme, un transsexuel allemand qui avait conservé son utérus et ses ovaires a donné naissance à un garçon. Donc en fait, il a pris un traitement hormonal qui lui a fait développer sa pilosité et perdre sa poitrine, mais il avait conservé son appareil de reproduction féminin. Ouais. Et donc, il a eu des enfants. Dernière question. Dans quel pays, à partir de juin 2020, les petits garçons n'auront plus le droit de jouer aux petites voitures et les filles n'auront plus le droit de jouer aux poupées pour ne pas influencer la découverte de leur genre ?
C'est quoi les propositions ?
Alors, première possibilité, la Croatie de Denis. Deuxième possibilité, l'Italie de Carla. Troisième possibilité, c'est la Roumanie d'Evelyne. Et la quatrième possibilité, c'est que j'ai totalement inventé cette question.
Oui, c'est clair. Donc, que
voilà. Ah oui, oui, voilà, c'est exactement totalement inventé. Rassurez-vous, on n'en
si
est pas encore là.
Même si après la chronique de Denis, j'aurais dit. Alors,
merci à tous pour cette émission. Merci Carla, merci Denis et merci Evelyne. Merci Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mathilde, merci Mafé et merci Anthony à la réalisation aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver l'émission sur iTunes, Deezer, Facebook et même en vidéo. Vous pouvez voir comment on est habillé aujourd'hui. Il y a SoundCloud aussi et il y a même sur le site de Grande Contrôle, mais ça c'est complètement fou. On va se dire au revoir comme d'habitude dans toutes les langues à 3, 1, 2, 3.
Oh. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.